Bonsoir à tous. Alors, je vous avais annoncé la semaine dernière la présence de Jean-Marie Le Pen ce soir, mais vous savez ce qui s'est passé. Enfin, j'espère que vous savez, sinon, vraiment, ça veut dire que vous faites comme moi, vous n'écoutez pas beaucoup la radio. Vous savez que le Front National, et donc Jean-Marie Le Pen, a été exclu hier de la manifestation unitaire du Trocadéro. Étant donné que c'était majoritairement franc-maçon, ce n'est pas tellement étonnant que Jean-Marie Le Pen ait été exclu. Mais je dois dire que dans une protestation contre le terrorisme islamiste, d'exclure le Front National, c'est quand même assez tapé. C'est assez joli, je dois dire. Et alors, c'est pas trop grave, puisque ce soir, une messe est dite à Saint-Nicolas-du-Chardonnay en hommage aux trappistes disparus, égorgés par les islamistes. Et donc Jean-Marie Le Pen sera présent à cette messe, ce qui fait qu'il ne peut pas être, n'ayant pas reçu le don d'ubiquité, ce qui laisse planer un certain doute sur sa sainteté, puisqu'on sait que les ubiques en général sont saints.
Donc, tous les saints ne sont pas ubiques.
Mais tous les saints ne sont pas ubiques, c'est vrai. Enfin, là, on peut se poser la question donc de la sainteté de Jean-Marie Le Pen. Enfin, bon, tant pis, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Donc il ne sera pas parmi nous. Mais en revanche, il devrait essayer de nous joindre par téléphone pour un point rapide, et il viendra non pas la semaine prochaine, car la semaine prochaine, le professeur Bernard Lugan assurera cette émission, selon la tradition maintenant bien installée, et traitera d'ailleurs de deux sujets, la Republika Srpska, nos amis de Palais, et l'Afrique du Sud, après le départ des ministres blancs. Donc, Jean-Marc Le Pen viendra mercredi en 15, si Dieu nous prête vie à tous. S'il ne nous prête pas vie, tant pis, on ne sera pas là, puis voilà. Vous n'en mourrez pas, et nous non plus, puisqu'on en sera déjà mort. Après tout dit, il me semble qu'il y a un coup de téléphone, et donc ça doit être M. Le Pen. Bonsoir.
Allô?
Oui, bonsoir, M. Jean-Marie Le Pen.
Oui, bonsoir.
Merci de prendre la peine de nous téléphoner de votre automobile, puisque j'ai expliqué à nos auditeurs que l'exclusion dont vous aviez été frappé, qui a interdit aux représentants du Front National d'être présents au Trocadéro avec les organisations maçonniques, paramaçonniques et crypto-maçonniques, fait que ce soir, vous participez, vous assistez à une messe célébrée à Saint-Nicolas-du-Chardonnay à 18h30 en hommage aux moines trappistes égorgés.
Je n'assiste pas seulement. C'est le Front National qui a pris l'initiative de cette messe de Requiem.
Alors,
allô?
Oui, oui, nous vous entendons parfaitement.
Oui, c'est ça. Je ne me contente pas d'y assister. J'avais pris l'initiative de faire cette messe de Requiem, estimant que, s'agissant de moines catholiques martyrs, la seule forme d'hommage qui était décente et convenable était évidemment une prière dans sa forme la plus accomplie, c'est-à-dire la messe.
C'est ça. Alors, est-ce que vous avez eu... Parce que le Figaro a expliqué que le Figaro de ce matin écrit « Seul parmi les formations politiques, le Front National a estimé avoir été exclu ». Alors, est-ce que vous avez estimé, ou est-ce que vous avez été exclu? Comment se sont passées ces choses?
Eh bien, écoutez, je sais très bien que dans ces domaines, la désinformation joue toujours son rôle, mais moi, j'ai entendu dire que monsieur, le président de farce démocrate, monsieur Bayrou, avait invité les partis politiques, n'est-ce pas, à l'exclusion du Front National. Alors, j'ai attendu une invitation de monsieur Bayrou, cette invitation n'est pas venue. Mais je dois vous dire que je ne me suis pas senti blessé de ne pas participer à la manifestation commune à tous les politiciens français, responsables de la situation du pays, et même en large partie de la situation algérienne.
Oui, c'est d'ailleurs la partie la plus on n'ose même plus employer, on sait même plus quel mot employer, j'avais envie de dire la partie la plus comique, je dirais plutôt la partie la plus attristante, la plus affligeante, la plus grotesque de cette affaire, c'est que
tous les gens qui se sont réunis au Trocadéro pour verser des larmes de crocodile maçonnique sur la mort des trappistes sont en fait, de près ou de loin, peu ou prou, en charge d'une certaine partie de la responsabilité de ce qui s'est passé.
Oui, d'ailleurs, je dois dire que j'ai entendu répéter à longueur d'antenne et d'écran que tous les partis politiques français participaient, sauf le Front National. À ma connaissance, il y avait au moins le parti de Mme Laguillé qui, avec une certaine dignité, refusait d'y participer. Il y avait les Verts, il y avait des tas de gens. Mmh. Et par conséquent, il s'agit là d'une réunion du gang des autorités politico-médiatico-morales autoproclamées dans une circonstance que je trouve cette unanimité un peu indécente, et je n'étais pas du tout choqué d'en avoir été écarté. Mon premier réflexe quand j'ai été interrogé par RMC le matin, me dire: Monsieur Lebel, qu'est-ce que vous pensez du fait que le Front National ait été exclu de l'invitation? J'ai dit: écoutez, je pense que le critère d'invitation devait être la corruption, et la corruption politique, et donc je ne me suis pas trouvé vexé, au contraire, d'avoir été tenu à l'écart de la réunion des partis corrompus.
Alors, Jean-Marie Le Pen, on parlera, si vous le voulez, plus en détail, plus à fond, d'une façon plus explicite et plus complète dans 15 jours de ce que vous avez vu en Irak. Je crois que ce soir, nos auditeurs attendent qu'on parle au moins rapidement, puisqu'il nous reste un petit quart d'heure avant que vous ne deviez nous quitter, de cette affaire algérienne. Est-ce que vous avez eu des lumières?
Je voudrais, si vous le permettez, oui, juste avant, je voudrais quand même dire quelque chose, parce que ce que j'ai à dire sur l'Irak présente un tel caractère dramatique, c'est un tel appel au secours, que je ne voudrais pas perdre 8 jours ou 15 jours, et je voudrais dire que ce à quoi j'ai assisté, et qui dure depuis 5 ans, c'est un véritable crime contre l'humanité, c'est un véritable génocide, et je comprends bien, étant français, que l'opinion publique accorde à cette abomination de l'assassinat des 7 prêtres une importance considérable, mais je voudrais, pour que les choses restent relatives et bien qu'un crime en efface pas un autre, je voudrais que l'on sache tout de même qu'il meurt en Irak 300 enfants par jour du fait du blocus criminel qui est décrété par l'ONU à l'instigation des États-Unis et pour servir les intérêts pétroliers des États-Unis, les intérêts diplomatiques d'Israël, et que ceci est fait avec la complicité de notre pays qui ne s'est pas opposé à cette politique criminelle. J'ajoute que j'ai été étonné de voir dans les colonnes du courrier du Figaro une intervention d'un ancien ambassadeur d'Irak qui s'associe à la protestation relative à l'égorgement des moines français, mais qui n'a pas une ligne pour ses compatriotes, pour les compatriotes irakiens qui meurent, et y compris les vieillards, les pauvres et les enfants, qui, comme on le sait, sont toujours les premières victimes de ce genre de crime. Mais, si vous voulez, ce que je crois qu'il faut que les Français sachent, comme j'ai souhaité le faire connaître aux Américains, à qui je me suis adressé hier par l'intermédiaire d'une grande station de radio américaine, si les peuples savaient que ce qui se passe là, en notre nom, avec des conséquences incalculables sur le plan des relations entre la France et le tiers-monde, la France et les pays arabo-musulmans, parce que je voudrais aussi rappeler que nous ne sommes pas tels que nous sommes caricaturés, et que le Front National n'est pas un mouvement qui bouffe de l'arabe. Et l'injustice, où qu'elle se trouve, nous touche à la fois l'esprit et le cœur, Et quand cette injustice est de notre fait, nous nous sentons particulièrement impliqués. Et je dois dire que je n'ai pas, somme toute, été trop étonné de voir que la conférence de presse que j'ai faite sur mon retour d'Irak, il n'y avait pour la première fois pas une télévision, pas une radio, et qu'il y a eu des comptes rendus, à l'exception d'un petit compte rendu dans Présent et des articles de National Hebdo, il n'y a pratiquement pas eu de compte rendu de ce que j'ai dit dans la presse. C'est donc la preuve qu'il s'agit là, comme en d'autres circonstances, d'un véritable complot médiatique. Il est évident que quand on touche à certains sujets tabous, quand on touche à certains intérêts mercantiles ou diplomatiques, on est condamné au silence par la loi de l'omerta médiatico-politique.
Ça, c'est très clair qu'il y a un parallèle évident qui s'impose entre l'absence des radios et télévisions à votre conférence de presse sur l'Irak et l'interdit qui a été posé sur vous et sur le Front National en ce qui concerne la manifestation du Trocadéro.
Absolument.
Il y a véritablement une...
Je voudrais rappeler, cher Serge de Beckett, que c'est la deuxième fois que l'on appelle à une manifestation unanimiste de ce style. La première fois, c'était Carpentras, tout se tient.
Ouais. Et puis, les motivations, car la motivation du Trocadéro, c'est beaucoup plus une motivation tendante à démontrer que tout ça n'a rien à voir avec l'islam, qu'une véritable motivation d'hommage aux trappistes. En réalité, les trappistes, il faut bien dire que tout le monde s'en fout.
Absolument.
Et que tout le discours médiatique et politique à l'heure actuelle consiste à dire il faut surtout pas confondre les égorgeurs islamistes avec les bons musulmans de Paris à qui on va construire une magnifique mosquée, alors que les mêmes radios et télévisions, faisant le récit du pèlerinage, enfin faisant non pas le récit, mais disant deux mots du pèlerinage de Chartres à Reims, de la tradition, appelait les pèlerins des fondamentalistes pour bien montrer qu'au fond, c'était la même chose que les égorgeurs islamistes.
Absolument, mais d'ailleurs, je voudrais souligner le contraste qu'il y a entre de la part de certains qui nous incitent à ouvrir grand les bras aux musulmans à condition qu'ils soient étrangers chez nous, et qui les martyrisent chez eux.
Alors, il y a pas mal d'appels, Jean-Marie Le Pen, pour dire, ce sont des militants du Front National qui téléphonent en disant, mais pour une fois, on a l'occasion de remercier toute cette crapulerie qui nous a épargné de nous mélanger à elle à l'occasion de la Saint-Tartuffe.
Ah oui, absolument. Aussi. Et la Saint-Tartuffe et Basile réunis.
Mais c'était la Saint-Basile.
N'est-ce pas, là, ça, il y avait à la fois la Saint-Arthur et la Saint-Basile. Mais c'est en prévision de cet équivoque cynique que j'avais, dès lundi ou dès dimanche, pris l'initiative de demander à l'abbé Laguéry de faire une messe de requiem pour l'âme des martyrs. De nos compatriotes martyrs en Algérie.
Alors,
car Dieu qui sonde les reins et les cœurs juge et non pas nous.
Oui, c'est sûr, il jugera surtout ceux qui sont en train d'utiliser cette affaire pour en faire un outil de basse manipulation politique en France. En ce qui concerne l'Irak, puisque vous souhaitez en parler, et bien sûr je le comprends, bon, vous êtes allé avec Jeannine Le Pen là-bas. Jeannine Le Pen était là-bas en tant que présidente du...
Pour dire la vérité, Jeannine, qui est présidente d'honneur, et Madame Lussan, qui est présidente de l'œuvre SOS Enfants d'Irak, avec une délégation de Jean-Michel Dubois, Maître Lussan, et aussi d'ailleurs M. Pelletier, qui est le rédacteur en chef de National Hebdo, a convoyé en quelque sorte à Bagdad deux ambulances neuves, modernes, qui étaient le fruit de leur recherche et des dons qui ont été faits, ainsi qu'une tonne de médicaments Et ce qui est un acte certes modeste, mais positif en faveur des enfants d'Irak. Et moi, j'étais invité par le gouvernement irakien et j'ai rejoint là-bas la délégation qui était en fin de mission. Et je suis resté 3 jours, mais j'ai recueilli donc toutes les informations, en particulier sur l'état dramatique, à la fois sur le plan de la nutritionnelle, médicale, chirurgicale, et on s'en entretiendra, si vous voulez, plus dans le détail, parce que cela mérite d'être su.
Oui, d'ailleurs,
je peux vous dire que si la France a dans le cœur des Irakiens qui furent nos amis et nos alliés, notamment que nous avons poussé à faire la guerre contre l'Iran contre le fondamentalisme islamique, et ils l'ont fait avec la peau de leurs centaines de milliers de soldats, eh bien c'est grâce aux initiatives que nous avons prises, ou aux initiatives du même style, mais comme on nous l'a dit, beaucoup de gens viennent ici nous faire part de leurs bonnes intentions. Vous venez avec les mains pleines, et de cela, soyez bénis.
Je voudrais d'ailleurs,
au moment où l'on parle de l'islam et de la chrétienté, de la religion, souligner que l'Irak est le seul pays où il y a une parfaite paix entre les différentes religions. Il y a à Bagdad 35 églises catholiques et j'ai moi-même visité une église orthodoxe arménienne. Il y a 8 églises orthodoxes arméniennes à Bagdad. Et c'est évidemment à ce pays qui est le plus ouvert, le plus large d'esprit, qu'on réserve évidemment notre hostilité.
Mais il y a d'ailleurs une logique parfaite là-dedans. En fait, vous avez tout à fait raison de rappeler, ça m'avait échappé, mais ça me frappe au moment où vous le dites, de rappeler que dans la lutte, ou la prétendue lutte contre le fondamentalisme islamique, on a utilisé, l'Occident a utilisé l'Irak comme des harkis.
Absolument.
Et les traite aujourd'hui comme on a traité jadis les harkis. Pour une raison très simple d'ailleurs, c'est qu'en fait la lutte contre le fondamentalisme est un pur leurre, puisque certaines forces occultes utilisent le fondamentalisme musulman comme comme une arme de boutoir contre l'Occident.
Oui. D'ailleurs, cher Serge, il faudrait être sûr que comme en d'autres circonstances, que l'attentat criminel dont ont été victimes nos compatriotes soit réellement le fait de ceux à qui il est attribué. Car ce ne serait pas la première fois que des attentats auraient été manipulés pour obtenir des résultats prévus. Il s'excite qui proteste. Moi, je regarde toujours à qui profite le crime. Et je ne vois vraiment d'ailleurs pas très bien pourquoi des gens commettraient ce type de crime affreux qui ne peut que desservir leur cause.
Alors, si vous avez le temps de lire le prochain numéro du Libre Journal, qui sera bouclé demain, vous verrez qu'il y a deux ou trois...
Je le lirai, mon cher Serge, avec délectation.
C'est gentil. Eh bien, vous verrez qu'il y a 2 ou 3 informations qui vont tout à fait dans ce sens-là, car j'ai eu un contact avec ce qu'on appelle pudiquement un représentant de la diplomatie secrète du Vatican, qui m'a dit que l'opinion généralement partagée par les spécialistes de la diplomatie secrète du Vatican était que cette affaire est purement et simplement un montage, que les fondamentalistes du GIA, en tout cas le maquis qui a enlevé les moines trappistes, est très très probablement un fauné manipulé par on devine qui, selon les techniques qui avaient été d'ailleurs élaboré à l'époque de la présence française en Algérie, où certains services français avaient créé des faux maquis FLN pour
Absolument.
Monter des opérations. Et bien là,
Absolument.
C'est exactement ce qui s'est passé.
On comprend mieux le parallélisme d'ailleurs avec l'affaire de Carpentras.
Tout à fait. Et on comprend aussi comment, dans de telles conditions, un émissaire du gouvernement français a pu franchir les lignes, car autrement, ça ne tient pas debout.
Oui.
Et cet émissaire du gouvernement français il y a quand même une chose qui est assez bizarre aussi, c'est que le spécialiste de ces questions est également un ancien du petit séminaire, c'est M. Marchiani.
Ah oui.
Et que pour avoir pensé à apporter des hosties consacrées à des prêtres, il faut avoir un esprit un petit peu particulièrement orienté,
oui.
Ce qui semblerait correspondre à une personnalité ayant fait oui. Le petit séminaire.
Oui, mais tout cela finira par se savoir.
Bien sûr, comme toujours.
Et rappelons-nous le précepte énoncé par La Fontaine, « Cuide en gêner autrui,
souvent sans
souvent s'engêne soi-même. »
Je dirais que en ce qui concerne la vérité sur cette affaire, il n'y a pas à barguigner. Moi, quand j'ai face à face un prieur d'une abbaye trappiste qui dit blanc et le ministre des Affaires étrangères qui dit noir, je suis certain que l'affaire est blanche.
Certainement. Mais c'est probable.
Voilà. Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'il y a un moyen immédiat, technique, pratique, de participer à l'œuvre que préside Jeannie Le Pen?
Oui, SOS Enfants d'Irak reçoit les dons sous forme de chèques ou sous forme de médicaments, de matériel chirurgical ou médical, mais je n'ai pas malheureusement l'adresse dans la tête. C'est bien regrettable.
Mais on va nous la donner. Je pense que quelqu'un va téléphoner pour nous la donner.
On va vous la donner.
Voilà.
Je crois que cette œuvre remplit une mission non seulement humanitaire, mais une mission d'influence française qui est capitale.
Jean-Marie Le Pen, merci. On a une communication qui est de plus en plus mauvaise et comme par hasard, ça se produit à la fin du temps que vous nous avez imparti. Donc je vais vous laisser rentrer d'ailleurs parce que c'est pas la première fois dans Saint-Nicolas-du-Chardonnay pour participer à cette messe. Et je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours au micro du Libre Journal du mercredi soir. Merci Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Voilà, on entendait au fond non pas les cloches mais les sirènes de police. Alors Jean-Marie Le Pen assiste en ce moment donc à la messe qui est dite à Saint-Nicolas-du-Chardonnay en hommage. Est-ce qu'on dit une messe en hommage finalement? Ça me plaît pas tellement cette
expression.
C'est un peu maçonnique tout ça.
Oui.
Hein?
Oui,
comment
dit-on?
C'est Marc Dem que j'interroge comme spécialiste.
Une messe pour le repos de l'âme
messe pour le repos de l'âme
de quelqu'un.
Des trappistes assassinés. Eh bien, Marc, puisque vous avez pris la parole, je vais vous la laisser. Hein. Vous êtes venu ce soir pour nous parler de votre livre 666 l'Antéchrist, on l'avait annoncé, qui est paru aux éditions, dans la collection L'Âge du Verseau, aux éditions du Rocher, avec une coquille très amusante au dos de la couverture, ce qui montre que la bête, quand même, ne rate aucune occasion de se manifester, car on voit au dos de la couverture, pour une raison probablement informatique, traduit de l'américain. Je ne savais pas que vous écriviez en américain.
Oui.
Je sais, en revanche, que vos livres sont traduits dans de nombreuses langues.
Dans de nombreuses langues,
puisque Fatima, le troisième secret de Fatima, vient d'être traduit en espagnol, en roumain et en brésilien. C'est une langue, le brésilien?
Et en portugais, au Brésil, donc.
Portugais au Brésil, au Brasil. C'est comme ça qu'on dit.
Oui.
Alors, donc ce sera certainement le cas de 666 l'Antéchrist. Alors, c'est pas traduit de l'américain?
Non, ça je peux le confirmer, ce n'est pas traduit de l'américain.
Qu'est-ce qui avait traduit? Parce qu'il y a eu un petit peu.
Alors, je ne sais pas d'où ça sort, je n'ai pas encore demandé.
Par Thierry Piella.
Thierry Piella, que je ne connais ni
Dieu, dans le plan, ni en l'occurrence. C'est très curieux, cette affaire de la traduction.
Oui.
Et il y a une autre chose qui est curieuse, c'est quand même que, on peut le dire, puisqu'on en a parlé à ce micro, vous avez reçu un grand coup de pied de la bête en plein milieu de votre travail sur ce livre.
Oui, c'est tout à fait exact. Ça coïncidait d'une façon étonnante.
Ouais.
Donc, ça remonte, cette affaire qui est tombée sur, non pas sur le dos, mais sur le ventre, qui est, pour dire exactement, un cancer du pancréas, maintenant, heureusement, jugulé. C'est tombé juste pendant que j'écrivais 666, l'Antéchrist, et j'ai dû entrer à l'hôpital au moment de la... Enfin, quelques jours avant la sortie du livre.
Ouais.
Et j'ai vu un coup de la bête, c'est-à-dire que c'est pas moi qui y ai pensé, c'est plusieurs personnes qui m'ont téléphoné, et des gens qui sont des gens sensés m'ont dit, c'est la bête, ne cherchez pas.
Alors ce livre, on comprend que ça lui plaise pas la bête, parce que ça ouvre quand même bien les yeux sur quelque chose qui est du domaine de la réalité surnaturelle.
Oui.
Et qui est l'omniprésent, l'omniprésence dans notre société aujourd'hui de ce signe, c'est Saint Jean qui en parle dans l'Apocalypse, qui dit, alors je vous laisse citer la phrase parce que je suis un spécialiste des citations tronquées, truquées, renversées et trop
Moi donc. Aussi je vous dirais, sauf alors, quand j'écris, mais quand je parle, j'oublie volontiers les termes exacts. Bon, Saint Jean dans l'Apocalypse nous dit que, nous parle de la bête et dit, attention, de la bête et de l'Antéchrist, qui se confond un peu avec la bête. L'Antéchrist est plutôt son incarnation, l'incarnation de la bête. Il nous dit, vous la reconnaîtrez à ce signe, n'est-ce pas ? C'est son chiffre, c'est 666. Et ce 666, lorsque Saint Jean nous dit cela, il dit, c'est ici qu'il faut de la finesse. Donc il nous encourage à faire des recherches nécessaires pour savoir donc à qui attribuer ce numéro. Ce numéro qui va le dénoncer, ou dénoncer l'Antéchrist.
Je disais que c'est un homme qui est omniprésent, enfin qui est très très présent dans notre société, et alors vous en dressez un recensement bouleversifiant, comme dirait l'autre, mais quand vous étiez tout à l'heure avec moi dans les bureaux de Radio Cantosi, j'étais en train d'ouvrir le courrier de la semaine, on a ouvert une enveloppe sur laquelle il y avait Marc Dem, au bon soin de Serge de Beketch, et dans cette enveloppe, il y a une photo. Alors, c'est un signe.
Oui, cette photo, je l'ai là, donc, devant moi. C'est un de nos auditeurs et un de mes lecteurs, puisqu'il dit avoir lu mon livre. C'est une photo de la porte du BHV, où l'on voit 666 en grand, deux fois d'ailleurs, et ce sont les 666 jours du BHV.
C'est-à-dire que c'est les 6 jours du BHV, mais les colleurs d'affiches ont pris soin de coller 3 affiches côte à côte, ce qui fait, sur une affichette jaune grand format, 666, au lieu d'avoir 3 affiches 6. Et c'est assez frappant, ça avait évidemment été fait à dessein. Oui. On ne peut pas imaginer, parce que pourquoi pas mettre 4 affiches, ou 5, ou 2, pourquoi 3 précisément. Les gens qui ont collé ça avaient une intention maligne, ou maligne. Oui.
Comme c'est la grande référence maintenant en matière commerciale, et j'ai cité, comme vous le dites, de nombreux cas, en France comme à l'étranger, de nombreux cas où, en plus, le 666 est choisi comme sigle par une firme commerciale qui, en plus, apporte des éléments de satanisme. Par exemple, une moto japonaise est immatriculée sur l'affiche, sur les affiches 666, et elle part en dégageant du feu et de la fumée, et on voit un trident, et on voit quelqu'un qui agite un trident dans ce nuage de fumée. Bon, donc, c'est bien attirer notre attention sur le fait que celui qui est derrière le chiffre, c'est Satan.
Alors, il y a beaucoup d'autres exemples que vous citez, c'est tout à fait frappant, et qui montrent qu'il y a une volonté de s'aligner, en quelque sorte, une volonté de signer de la part des gens qui font ce travail. C'est pas par hasard, il ne leur tombe pas par hasard l'immatriculation 666, ils la recherchent. Alors on voit par exemple que il y a même quelqu'un, vous racontez, qui a dit eh bien ce chiffre nous a aidé à faire des affaires.
Oui.
Ça, alors les exemples, c'est par exemple en Italie, une marque de chaussures qui s'appelle 666 et dont la tête s'orne d'une tête d'agneau portant 2 cornes. Alors, des agneaux à cornes, il n'y en a pas beaucoup, sauf dans l'Apocalypse, où il est dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Donc, ce qui est clair, c'est que, sans faire de fantasmagorie ou d'occultisme de bazar ou d'ésotérisme de bastringue, il y a des gens qui sont clairement, qui prennent clairement pour référence ce 666 comme signe de ralliement à la bête.
D'ailleurs, je me suis efforcé dans ce livre d'éviter les interprétations trop faciles, d'écarter celles qui ne s'imposaient pas, celles qui n'étaient pas claires et sûres, de façon à isoler vraiment les cas flagrants. Les cas flagrants où il s'agit d'une intention bien déterminée et où on voit se profiler derrière l'ombre du diable.
Alors un auditeur a fait remarquer que sur votre livre, il y a le signe de la bête évidemment en couverture puisqu'il est indiqué c'est le 666, mais il dit également dans le codage, le codage barre, qui est marqué par le 666. Alors ça, vous en parlez dans le livre, j'aimerais bien que vous expliquiez oui. de quoi ça retourne.
Alors le code barre se trouve sur mon livre, comme sur tous les objets qu'on peut rencontrer, qu'on peut acheter maintenant, et jusqu'à la moindre boîte d'allumettes. Tout le monde connaît donc cette succession de lignes, dont chaque groupe de lignes, en général deux, représente un chiffre. Donc ça permet d'inclure des données commerciales qui sont utiles pour savoir le prix, vous savez, dans les magasins, quand on passe devant la caisse. Ça, ce n'est pas sorcier, mais ce qui est bizarre, c'est que les deux premières lignes, les deux dernières et les deux du milieu, ce sont des 6.
Et elles sont remarquables parce qu'elles sont plus longues.
Elles sont plus longues.
Alors, on explique d'ailleurs que c'est une façon de séparer le code en deux parties, en réalité. Le premier code, le premier codage double barre fine indique le début du codage.
Oui.
Et le dernier, la fin du codage, et au milieu, ça exprime, je crois, la séparation entre le code produit et le code prix, ou quelque chose comme ça. Alors, donc, on aurait pu choisir n'importe quel signe. Il y avait 10 signes possibles, le 0 et les 9 chiffres. Et curieusement, on a choisi le 6 pour faire ces séparations, ce qui fait que tous les codes commencent par un 6, ont un 6 au milieu et se terminent par un 6, autrement dit, le 666 est marqué, les autres chiffres codés, alors en l'occurrence, votre livre, c'est 782-268, et puis ensuite 022-475, mais en réalité, ça fait 6-782-266, 6-022-475-6, et l'étrange est dans le choix
du 6.
Du 6. Pour faire ce codage. Alors, on peut rapporter ça, et vous le faites d'ailleurs, au texte de l'Apocalypse qui dit, et nul ne pourra ni vendre ni acheter s'il n'est pas marqué au front du signe de la bête.
Au front ou à la main.
Ou à la main, du signe de
donc,
la bête.
Donc, Saint Jean le dit, donc, il y a 2000 ans environ. Hein. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, ça se fait. Ça se fait, puisque ce code-là, amélioré, enfin un peu différent, sera aussi le code personnel de chacun, comprenant d'ailleurs son compte en banque.
C'est ça, le chiffre personnel.
Le chiffre personnel.
Ce qui est déjà parfaitement au point. Alors là, vous racontez ça dans un immense ordinateur, la chose est travaillée à l'heure actuelle, qui vise à donner à chaque individu vivant sur la planète un numéro. Ça existe d'ailleurs en France, on appelle ça le numéro de sécurité sociale, qui indique le lieu de naissance, le sexe, la date, le mois de naissance, le numéro et puis le numéro d'ordre.
Ce numéro va être compliqué, va être complété d'une façon substantielle. On verra même les maladies que vous avez eues et les signes génétiques qui vous disposent à certaines maladies. Tout cela est prévu. Mais en plus, donc, cette affaire de votre compte à la Banque centrale, parce qu'il n'y en aura plus qu'une, ce sera beaucoup plus simple. Comme aujourd'hui, nous avons les cartes de crédit, vous aurez... C'est gênant, la carte de crédit, vous pouvez l'oublier chez vous.
La perdre.
On peut vous la prendre, etc. Alors, on projette, et des expériences sont déjà faites, on projette de vous le tatouer sur la main ou sur le front, d'une façon invisible, à l'œil nu. Donc, quand vous passerez à la caisse, vous posez votre main et vous passez, vous avez avec vos marchandises.
C'est déjà le cas pour les animaux.
Alors, on vous pose l'appareil détecteur sur le front. Donc, c'est bien ce que Saint Jean dit, que quand tout cela sera en place, plus personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir le signe de la bête, donc 666, sur le front ou sur la main.
Il y a une autre expérience dans votre, enfin une autre recherche, forme de recherche dans votre livre qui est assez troublante. C'est pas, vous l'avez pas inventé, ça existe depuis un certain temps, c'est la guématrie, la numérologie, recherche sur les nombres, forme de guématrie. Et vous vous amusez, si j'ose dire, à chercher à quel nom de personnage, puisque ça sera le chiffre de la bête, donc la bête est probablement un personnage, que vous assimilez à l'antéchrist.
La bête sera un personnage, parce que le but de l'opération pour le prince des ténèbres, c'est de singer Dieu jusqu'au bout. c'est de, et de se mettre à sa place. D'où le contrôle des populations. Comme Dieu sait ce que nous avons au plus intime de notre cœur, eh bien, lui veut savoir tout de nous. D'où ce chiffrage, d'où cette, toute cette, ces numéros qui permettront d'analyser même et de connaître même vos pensées politiques ou religieuses. Alors, vous avez donc cela, la singerie absolue, le diable c'est le singe de Dieu, et l'antéchrist c'est le singe du Christ. Or le Christ s'est fait homme. Donc le diable se fait homme d'une certaine façon. En réalité, il ne se fait pas homme, mais il prend un homme qui sera son émissaire, qui sera son messie à lui, et qui sera absolument à ses ordres. C'est l'antéchrist.
Alors donc votre recherche porte sur un personnage, mais on va dire qui c'est tout de suite.
Oui.
C'est Mikhail Gorbatchev. Donc vous travaillez selon les règles de la gématrie, de la numérologie, sur le nom de Gorbatchev, et vous additionnez les lettres qui forment son nom, et vous obtenez 666. Bien. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça date un petit peu le livre? Je veux dire par là que, au moment où vous avez fait ces recherches, au moment où vous avez travaillé, Gorbatchev était au centre de l'actualité. Là, il semble avoir complètement disparu.
Non. C'est cela que l'on croit. Il n'est plus le maître de toutes les Russies, mais Gorbatchev est le président fondateur de la fondation Gorbatchev aux États-Unis. Et lorsqu'il y a maintenant des grands rassemblements mondialistes, c'est lui qui invite. C'est sa fondation qui organise. Voyez-vous, il est passé d'un échelon national à un échelon international. C'est un grand nom. Pas pour le grand public, mais c'est un grand nom du mondialisme pour les gens qui s'en occupent.
Alors, il y a une chose qui est amusante, j'ai tendance à dire amusant, parce que moi, comme je crois absolument d'une façon totale à l'avènement de notre Seigneur, je trouve les efforts de la bestiole plutôt comiques, pour tout dire.
Oui.
Même si c'est ravageur et méchant, mais au bout du compte, c'est tellement dérisoire, parce que ça va rater, les portes de l'enfer ne prévaudront pas, donc ça va foirer. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus drôle au cinéma, par exemple, que de voir les efforts des frères Stooge pour construire un mur et qui se filent les échelles sur les coins de la gueule, qui tombent des échafaudages, qui se prennent qui se mettent des coups de tournevis dans les mains, etc. Ça me fait tout à fait penser à cette espèce de déploiement formidable d'énergie qui aboutit généralement à rien du tout. Oui. Donc au fond, c'est assez rigolo. Et parmi les choses qui sont surprenantes, au moins, il y a le fait que l'Apocalypse annonce que l'Antéchrist se fera adorer en raison des nombreux prodiges qu'il accomplira. Or, il faut reconnaître quand même que Gorbatchev a accompli un prodige que tout le monde pensait totalement impossible, à commencer par nous, vieux militants anticommunistes, c'est qu'il a foutu le mur de Berlin par terre.
Oui.
Car il est l'auteur de ça, il faut bien reconnaître. C'est quand même le prodige le plus stupéfiant de la deuxième moitié du XXe siècle.
Oui, c'est en une journée. C'est un fait. C'est un fait. C'est un prodige.
Et qui lui vaut la sympathie de ceux qui devraient être ses pires ennemis.
Et pour une bonne raison, c'est que Gorbatchev. Pourquoi a-t-il abattu le mur de Berlin? C'est parce que, je l'explique longuement, c'est parce que le rôle de l'URSS était terminé. Il faut bien se dire cela, il était terminé. Qu'est-ce que c'est que l'URSS, que le bolchevisme? Ce n'est qu'une manifestation du mondialisme, mais qui restait circonscrite dans les limites d'un territoire. Mais c'est une expérience, une première expérience.
C'est d'ailleurs une bête, c'est l'ours.
C'est l'ours, ben oui. Et alors, le moment venu, il faut passer à autre chose. Il faut que ça s'étende à l'échelon planétaire. Et cette URSS, c'est vraiment ours, en effet, et ours mal léché. Ils ont été à coups de knout, ils ont été à coups de camps de concentration, tout cela. C'est idiot, mais il fallait le faire pour voir ce que ça donnait. On a vu que ça ne donnait rien. Beaucoup le pressentaient, mais ce n'est un mystère pour personne.
Il y a une dimension, ça n'a pas été fait seulement pour ça.
Ça a été financé par les financiers internationaux.
Il y a une dimension sacrificielle, c'est-à-dire que pour réussir cette espèce de gigantesque opération de magie noire qu'est la prise du pouvoir par la bête, il faut beaucoup, beaucoup de sang, il faut du sacrifice humain. Et il n'y a pas eu un système, il n'y a pas eu une religion, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu une religion qui a procédé à autant de sacrifices humains que la religion de la bête. Ouais. Au moins 200 millions de morts. Hein, oui, oui. Hitler, petit agitateur sous Staline.
Oui, et cette, oui, ce sacrifice, cet holocauste, me permettrais-je de dire, cet holocauste est fantastique, et personne ne l'a reproché à l'URSS.
Bah écoutez, comme le faisait remarquer un auditeur tout à l'heure, on a vu M. U, complice objectif de ces 200 millions de morts, puisqu'il est communiste en 1996. Alors, c'est un héritier du stalinisme, il était stalinien, il l'est probablement toujours secrètement, donc il défilait, lui, au Trocadéro, avec les droits de l'homiste. Hein, c'est quand même superbe. On défile pour protester contre l'assassinat de 7 prêtres, ce qui est effectivement dramatique, mais parmi les gens qui défilent contre l'assassinat de 7 prêtres, il y a un type qui est partisan d'un régime qui a tué des dizaines de millions de prêtres, et des centaines de millions de catholiques, et d'orthodoxes, et de musulmans, et de juifs. C'est quand même incroyable, cette inversion des valeurs.
Mais nous sommes les seuls à le dire. Nous sommes un petit groupe à le dire, Noun. Moi, je me suis toujours étonné, je m'attendais à... Parce que après la chute du mur de Berlin et du rideau de fer, je me frottais les mains, on va voir l'intérieur des camps de concentration, voir sortir tous ces cadavres-là. Je ne me frottais pas les mains pour ça.
Je peux vous poser une question indiscrète, vous avez quel âge? Moi, 12 ans ou... Vous avez 12 ans.
Oui. Je me disais, on va assister enfin à ce qu'on a vu après la chute de Hitler.
Ça, hein,
bon. Et puis ça ne s'est pas produit.
Je pense... Mais je vous faire une confidence, éloignez les enfants du poste. Nous, on n'est pas sûr que le Père Noël existe. Je vous dis ça, on n'a pas de preuves.
Mais ce qui est fantastique, c'est que quand j'ai posé la question à des hommes politiques éminents que j'ai pu rencontrer à ce moment-là, eh bien, ils m'ont regardé drôlement, comme vous le faites maintenant.
Oui. Bien que n'étant pas de politique.
Et puis, j'ai dit, mais alors, c'est quand? On ne les a pas ouverts? Où sont les gens? Alors, quelqu'un m'a dit, ils sont toujours dedans. Trouvez ça affreux. Bon, alors donc, voilà, revenons à notre affaire. Gorbatchev, ce qui est étonnant chez lui, c'est qu'il a tous les signes. Mais ce n'est pas l'antéchrist, c'est un antéchrist. Mmh. Comme dit saint Paul, il y a des antéchrists.
On les appelle les légions car ils sont plusieurs.
Qui sont précurseurs de l'antéchrist, l'antéchrist final. Mais lui a toutes les caractéristiques voulues, y compris cette curieuse tache de sang
sur le front.
Et qu'il n'a jamais fait opérer, qu'il a promené partout, qu'il a montré partout.
Alors Marc, on vous écouterait pendant des heures, mais après on ne lira plus votre livre. Alors quand même, je crois qu'il faut le lire parce qu'il est passionnant. Il est assez effrayant. Hein. Je disais que Daniel Amiche, qui l'a lu avant moi, le tout premier je crois, était épouvanté. Il m'a dit plusieurs fois, mais écoute, c'est un livre terrifiant. Il faut vraiment prier, il faut se mobiliser. Bon, alors, il faut dire que Daniel, toutes les occasions sont bonnes pour lui de prier. Ça, donc là, il en a trouvé une prochaine supplémentaire. Voilà. 666, l'Antéchrist, Marc Dehn, c'est paru, hein, j'ai dit, aux éditions du Rocher, mais on doit pouvoir se le procurer en vous envoyant...
On peut aussi se le procurer à Iotacom, voilà. Dédicacé. Hein. Voilà. On envoie 110 francs.
110 francs,
110 francs
franco,
à Iotacom.
On parle franco.
Franco, bien sûr.
Comment dit-on maintenant? On ne dit plus franco, on dit... démocratie espagnole. Voilà. Donc vous envoyez 110 francs démocratie espagnole. Monsieur Le Tailleur, bonsoir.
Bonsoir.
Alors là, on va parler d'un autre film, mais qui n'a rien à voir. Je vous demande de venir. Ce que je vais demander, c'est peut-être à Pierre Routier de bien vouloir laisser sa place à son homonyme de prénom, Pierre Joubert, qui est le fameux dessinateur. Alors, Gérard, vous êtes là ce soir pour nous présenter...
Bien, ma foi,
votre prochain coup de folie.
Le prochain coup de folie, effectivement, qui sera avec M. Pierre Joubert, notre troisième ouvrage, puisque nous avons eu le plaisir de faire précédemment ensemble une édition consacrée au Saint Graal. Puis, l'an dernier, nous avons réalisé toute l'histoire des ordres de chevalerie, qui a eu d'ailleurs un grand succès. Et puis, nous préparons avec M. Pierre Joubert la légende de Siegfried, qui est peut-être la chanson de geste la moins connue en France. Quand je vous dis ça, je pense comparativement à la chanson de Roland et autres. Faut dire que c'est une chanson de geste qui a été découverte qu'en 1755 par un médecin de Landau qui s'appelait Oberreit. et que c'est Goethe, en plein romantisme allemand, dans les années 1830 à peu près, qui a commencé à en parler, et c'est surtout Wagner, à travers sa tétralogie, qui a permis à cette légende de Siegfried, à cette chanson des Nibelungen, en fait, d'être extrêmement connue à travers le monde.
Alors, il faut évacuer tout de suite, parce que naturellement, la question va être posée, il faut évacuer tout de suite la question du caractère politiquement correct ou politiquement incorrect de Siegfried. Contrairement à ce que pensent les crétins, c'est pas une légende nazie.
Absolument. D'ailleurs, c'est scandinave au départ. Voilà. C'est une saga scandinave, puisque Siegfried est considéré comme le fils de Wotan, donc le fils de Dieu. En fait, on suit les Vikings qui descendaient d'Islande, qui arrivaient en Hongrie à la cour du roi Hetzel. En fait, c'est Attila d'ailleurs, puisque nous sommes au 5e siècle. Nous sommes donc à la même période qu'à l'occasion de notamment la légende du roi Arthur, le cycle arthurien. Nous allons après, effectivement, dans le royaume des Francs et également en France, en partie, puisque le royaume des Burgondes, la Burgondie, la Bourgogne, donc, fait l'objet d'un des hauts lieux de cette légende de Siegfried.
Alors donc vous avez retrouvé une traduction.
Alors c'est une traduction de Maurice Betts qui a été réalisée dans les années 50 à peu près et qui nous a été conseillée par la Bibliothèque nationale. C'est une des meilleures traductions parce qu'en fait le texte de base qui est un texte du XIIIe siècle était écrit en vieux souabe qui était une langue archaïque.
Ça n'a pas l'air vrai. Et là, le swab, c'est pas évident, mais le vieux swab, c'est le...
Donc, c'était une langue...
C'est un peu comme le Schwitzerdeutsch, peut-être,
non? Oui, absolument.
C'est vraiment... Ce qu'on peut faire de plus laid avec sa bouche.
Voilà, dans une province qui était à côté de la Thuringe, de la Bavière. En fait, c'est une langue assez sonore. Il fallait donc que la traduction rende cette sonorité. Et la traduction de Maurice Betts est assez extraordinaire. Maurice Betts a fait connaître bon nombre d'auteurs allemands, puisqu'il était alsacien, il est né à Colmar, et il a notamment fait connaître Thomas Mann, Rilke, enfin bon nombre d'auteurs un petit peu avant la guerre. Alors ce texte, donc, cette version nous a été conseillée, et nous avons demandé à Monsieur Pierre Joubert si il souhaitait l'illustrer.
On va se tourner vers Monsieur Joubert que nos auditeurs connaissent parce que je l'ai déjà reçu dans cette émission. Et puis s'ils appartiennent à la même génération que moi ou même aux générations plus jeunes, ils savent qui est Pierre Joubert. On va pas y revenir parce que ça l'irrite un petit peu qu'on ne parle que de ça. Je voudrais qu'on parle ce soir non pas de Pierre Joubert. Allez, on le dit quand même, du prince Eric, mais et du signe de pipe, mais qu'on parle de Pierre Joubert, illustrateur de grands textes, non pas que les textes d'Alain soient des petits textes, mais enfin, illustrateur, c'est une de grands livres, de grands beaux livres de haute bibliophilie, comme ceux que fait ce fou, parce que c'est vraiment un fou, il faut le dire, de Gérard Le Tailleur, qui pourrait faire de l'édition comme tous les autres, c'est-à-dire en rouleau ou en feuille. Voilà. Lui, il fait des vrais livres en cuir avec
des choses très belles.
Voilà. Alors, Pierre Joubert, Gérard Le Tailleur l'a dit, vous êtes découvert en quelque sorte illustrateur de haute bibliophilie depuis finalement assez peu de temps, il y a quelques années.
Je me suis découvert.
Vous saviez que vous étiez
illustrateur. C'est difficile, après l'apocalypse et la géologie, de passer.
Alors là, vous savez, c'est le genre de l'émission. Hein. On va parler de fleurs.
On était dans de tels sommets que j'avoue que je me trouve un peu embarrassé.
Comment bon. Vous passez votre vie sur les sommets depuis plus de 80 ans. Alors, bon.
Merci.
Mais c'est vrai en plus les sommets. Vous êtes quand même un des très grands dessinateurs français. Je vous le signale si vous n'êtes pas au courant. Il faudra bien que quelqu'un se décide à vous le dire.
Bon, d'accord. En toute modestie, j'accepte.
Oui, non, mais je crois que vous ne pouvez pas refuser. Alors, comment ça s'est passé, cette rencontre avec des textes bon, comme le Graal et Siegfried? Parce que les chevaliers, on comprend mieux, si j'ose dire, parce que c'est vraiment votre univers. Vous avez dessiné des chevaliers avant que Gérard Le Tailleur vous le demande. Mais illustrer des textes qui sont des textes essentiels de la littérature européenne, de la littérature occidentale, comme le Sacré Graal ou la légende des Nibelungen, la légende de Siegfried, quelle est la rencontre? Comment s'est passée la rencontre pour vous, sur le plan esthétique?
Et ça s'est passé de façon un peu embarrassante. Parce que, il faut dire ce qui est, Le texte ne correspond pas tout à fait à l'époque. Alors moi, je suis assez scrupuleux sur l'exactitude historique. Mmh. J'ai souvent fait des livres d'histoire, beaucoup moins chers, bien sûr.
Beaucoup moins beau aussi sur le plan de l'édition, oui. Je veux dire, hein, parce que
tout à fait dit, oui, bien sûr.
Le mot cher, c'est quelque chose de très relatif.
Oui, hein. Bon. Non, je m'étais jamais lancé dans des trucs pareils. Bon, ça fait le troisième que je fais avec le tailleur. C'est très agréable pour moi, mais enfin, j'étais pas tellement habitué. Et quand j'ai fait des livres historiques ou de l'histoire ou surtout des livres de marine. Je m'étais beaucoup documenté et j'avais même conçu. Enfin, j'ai travaillé avec Pierre Miquel, avec Patrick Perrin, qui est conservateur de musée. Enfin, il fallait que ce soit exact.
Voilà,
or là, nous avons les Nibelungs. Ça se passe à l'époque d'Attila. Or, le texte a été écrit au XIIe siècle. C'est-à-dire que Attila est décrit avec un rhôme. Un bouclier, une épée, tous les personnages sont donc décrits dans le texte comme des personnages avec les costumes du XIIe siècle.
C'est la tradition. Or, vous savez bien que les images religieuses, par exemple,
oui, étaient d'accord. Aussi. Mais c'est très difficile maintenant que l'on connaît à peu près comment étaient habillés les uns, parce qu'on l'a su, de dessiner Attila. Avec un homme en tête, avec un bouclier, des armoiries et la tenue d'un chevalier du XIIe siècle.
Alors comment avez-vous...
Eh bien, j'ai fait un mélange. J'ai fait un mélange, et puis on verra ce que ça donnera. C'est-à-dire que j'ai représenté les Burgondes et les Nibelungs, enfin Siegfried, dans le costume du XIIe siècle, dans le costume des chevaliers du XIIe, et j'ai représenté Attila et ses troupes, avec le costume qu'ils avaient, le véritable costume d'Attila. C'est donc un anachronisme épouvantable, anachronisme de
4 siècles.
De 4 siècles, oui. Voilà, bon, c'est tout. Entre le 5e et le 12e siècle, enfin, vous voyez l'anachronisme, voilà.
Parqué dans le film de Cléopâtre.
Attila habite des châteaux avec créneaux et machicoulis. Ben, j'ai fait des créneaux et des machicoulis, mais j'ai pas pu me résoudre à dessiner Attila et ses hommes en chevalier du 12e.
Non, mais c'est vrai que ça aurait été troublant.
Donc, ça m'a été pour moi un problème. On verra ce que ça donnera, on verra si j'ai des réactions, mais il n'y a pas de...
Je peux vous rassurer, dans le Cléopâtre, le film célébrissime de Bukiewicz avec Elizabeth Taylor et Richard Burton, je crois, les erreurs chronologiques sont de 2000 ans. Donc là, vous êtes largement banni avec vos 700 ans.
Mais ça, au cinéma, ils s'en payent des erreurs. Vous avez vu les films, où on présente deux fois Louis XVI.
Ah oui,
Louis XVI, c'est comment ?
Tous les films américains où on voit Louis XVI, c'est pas mal.
Oui, notamment, alors Louis XVI, on le représente, oh là là, un film très couru, très célèbre, ce monde m'échappe parce que... etc. où Louis XVI, il a 60 ans.
Oui, c'était à la fin de sa vie. C'était après la Révolution.
C'était Lonsal qui le représente, le fameux artiste. Il a 60 ans,
Michel
etc.
Lonsal, qui est un très bon comédien.
Louis XVI,
un roi de 35 ans. Ans.
Et récemment, on a encore revu Louis XVI.
C'est l'histoire du crâne de Voltaire enfant.
C'est ça, voilà.
Alors, comment, ayant dessiné Attila dans son temps, et ayant dessiné les Nibelungen au XIIe siècle, qu'est-ce que Pierre Joubert pense de ces personnages-là et de cette légende ? Est-ce que vous avez été séduit, enthousiasmé par cette aventure ?
Ah bah oui. Oui, parce que je suis toujours enthousiasmé. Je suis enthousiasmé par la chanson de Roland. Je suis enthousiasmé par les légendes bretonnes. Mm-hmm. Et ça aussi, parce que ça représente le passé. Ça représente. Enfin, je suis pas un homme du passé. Je suis un homme de l'avenir aussi. Mais enfin, le passé pour moi c'est formidable. Alors évidemment, c'est l'histoire de la jalousie et de la vengeance. La jalousie poussée à l'extrême, qui va au meurtre. Il y en a eu d'autres. Et puis la vengeance poussée à l'extrême qui va jusqu'à à ce que Krimhild arrive à tuer son propre frère.
L'ambiance était un peu tendue à cette époque-là déjà.
En général, dans toutes les chansons de geste, ouais. Ça se passait assez mal d'ailleurs.
Et, là, et la vengeance qui est mûrie, qui est raisonnée, qui est préparée, oui, c'est assez.
Mais votre dessin, Pierre Jouvert, est tout le monde l'a dans l'œil et dans la mémoire. C'est un dessin qui est toujours extraordinairement lumineux. Comment arrivez-vous à évoluer dans cet univers sombre, tempétueux ?
Ah ben non, il n'y a pas, non. Toute la première partie du livre et même jusqu'au début, ce ne sont que des fêtes et des réceptions. C'est l'arrivée de Brunhilde à la cour des Burgondes, c'est des fêtes, les reines s'embrassent, tout le monde s'embrasse. Non, non, l'histoire des Nibelungs, c'est tout le début, ce n'est que dans les derniers chapitres que tout éclate. Même quand ils arrivent à la cour d'Attila, c'est lumineux, c'est des réceptions, des banquets. Non, non, c'est même assez joyeux. C'est joyeux, puis à la fin, alors, c'est le désastre, c'est le massacre, c'est la tuerie.
Alors, pour en revenir à la partie technique, vous avez déjà deux expériences de votre travail achevé sous forme d'édition.
Oui.
J'aimerais bien savoir ce que vous pensez, vous, du travail de l'éditeur, le tailleur. Est-ce que ce que vous avez vu quand les livres sont terminés correspond exactement à ce que vous avez fait vous-même ?
Ah oui, très exactement. Oui. Non, moi, ce que j'admire, enfin bon, c'est le courage de l'éditeur, bien sûr, parce que c'est des petits tirages pour un public sélectionné. Mais ce que j'admire, c'est le travail de... On les appelle les pochistes, je crois.
Les pochoiristes.
Les pochoiristes. C'est quelque chose de colossal. Oui, de penser je fais des dessins, un noir, je mets de la couleur dedans. On me dit, mettez tout ce que vous voulez, faites comme si vous occupez pas de nous. Et je fais des couleurs, enfin des quantités de... je joue avec la couleur, que je fais tout ce que je veux. Et ils arrivent à traduire ça, à faire jusqu'à 35, voire 40 passages.
Je crois qu'il y a plus que ça,
jusqu'à
50, c'est ça.
Même au-delà.
Et au-delà, c'est-à-dire ce sont des petites feuilles de zinc, très minces, qui sont découpées, percées de quantités de petits trous. Alors il y a d'abord les bleus gris, et puis ensuite les bleus jaunes, et puis ensuite les bleus pâles, et puis ensuite les bleus foncés, et puis ensuite les bleus violacés, enfin
Il faut savoir, parce que vous parliez tout à l'heure, Pierre Joubert, de livres chers, mais il faut savoir que sur une page du livre que vous avez dans les mains, quand vous êtes le propriétaire d'un de ces livres, quand vous ouvrez, vous voyez une illustration en couleur de Pierre Joubert, il faut savoir que cette illustration, vous allez regarder peut-être pendant 5 minutes, si vous êtes très très attentif, et si vous aimez beaucoup les belles choses, vous allez consacrer 5 minutes de votre vie à regarder ce dessin. En général, on tourne la page au bout de quelques secondes, mais admettons. Eh bien, pour la réalisation, elle aura pris cette page-là, pas la page de tous les livres, mais cette page-là, plusieurs dizaines de minutes au pochoiriste pour la mettre en couleur.
Oui, facilement.
Hein? Parce que à chaque fois, s'il y a 40 ou 50 ou 60 passages, il faut bien compter près d'une minute par passage.
Et puis il y a les temps de séchage. Les
temps de séchage, etc.
Et puis le travail voilà. Pour faire les plaques.
C'est quand même le travail pour faire le découpage, à partir de vos dessins. C'est un travail extraordinaire.
Et le repérage.
Et ça m'avait beaucoup frappé quand on avait reçu le pochoiriste. J'ai oublié son nom, Gérard.
Monsieur Richard.
Monsieur Richard, voilà. Et ça m'avait autant frappé que le travail des sculpteurs. On en parlera peut-être tout avec Marie-José, parce que il y a des gens dont on ne connaît pas les noms, et qui étaient les sculpteurs, par exemple, de Rodin, qui sculptaient la pierre à partir du modèle que Rodin, lui, avait élaboré.
Absolument, oui.
Et c'est... On ne connaît pas les noms de ces gens-là qui sont en réalité les véritables auteurs des œuvres.
Absolument. Hein? Effectivement, il faudrait reparler des œuvres d'atelier avec toute la qualité que pouvait avoir une œuvre d'atelier.
Il y a une injustice quand même qui est assez terrible. Alors, dans le cas de Pierre Joubert, c'est un peu différent parce qu'il est véritablement le créateur de l'illustration. Mais après, cette illustration est reproduite à l'identique
Il faut dire qu'après la guerre, il y avait 600 personnes en France qui étaient capables de colorer à la main, comme ça.
C'est... Ah ben, les images d'Épinal, c'est ça.
C'était cela.
Mais c'est très simple.
Et malheureusement, enfin, dans un sens, ce fut un bonheur pour d'autres, l'apparition de l'offset a amené la suppression de ces métiers, parce que ça venait beaucoup moins cher, bien entendu, de traiter différemment ces reproductions. Actuellement, vous avez en France une quinzaine de personnes réparties en 3 ateliers capables encore de colorer à la main ce genre de planches. Ce qui fait qu'on se retrouve notamment avec les ateliers d'Ulysse comme étant pratiquement les seuls clients de cet atelier. Donc si éventuellement on a des difficultés, vous voyez, ça entraîne quelque part la disparition de métiers artisanaux qui représentent vraiment la tradition française. On se bat d'ailleurs pour perpétuer cette tradition d'ailleurs à travers nos lits.
Je crois que pour comprendre l'importance du travail que vous faites, Gérard Le Tailleur, et que font les éditions du Rameau d'Or, il faut venir. C'est une des raisons de venir le 16 juin
avec grand plaisir,
à la Mutualité, puisque vous y serez
quelques originaux
pour présenter vos livres. Et tant qu'on ne les a pas vus, tant qu'on ne les a pas pris en main pour les ouvrir, pour les feuilleter, c'est pas le mot, pour les ouvrir avec vénération, on ne peut pas imaginer ce que c'est que ce travail. On ne peut pas imaginer. Le livre sur les ordres de chevalerie que vous avez fait avec Pierre Joubert encore, c'est quelque chose. Moi, quand je montre mon exemplaire à des visiteurs, ils sont absolument abasourdis qu'une chose pareille puisse exister avec l'incrustation en plat d'étain d'un chevalier dessiné par Pierre Joubert, reproduit en étain par
un dinandier,
et qui est incrusté dans la couverture en cuir, c'est quelque chose d'inimaginable de richesse, de beauté et de qualité de travail artisanal. On est au cœur du génie français de l'artisanat. C'est quelque chose de magnifique. Et on voit, là, c'est une discussion qu'on a déjà eue avec Marie-Josée de Bravois, on voit à quel point les grands artisans sont très très proches des artistes et des grands artistes.
Alors là, vous savez que c'est un cheval de bataille.
Pierre Joubert, une dernière question. Là, vous avez terminé les illustrations de Siegfried, et après, vous attaquez quoi ?
J'ai 86 ans.
Oui, ça c'est d'accord, mais enfin, je vois encore une fois, si Mme Calment avait dit à 86 ans, je ne fais plus rien, elle se serait enquiquinée pendant 24 ans.
La plupart de mes collègues ont arrêté bien avant moi.
Alors moi j'ai... Et alors ?
Alors je sais pas si je vais attaquer quelque chose ou quoi, j'attaquerai plus rien sinon des petits bricolos. Non, je peux plus me lancer dans des après avoir terminé la chevalerie, j'ai fait des illustrations de Rimbaud.
Ben vous voyez.
Voilà.
Alors donc.
Ah oui, mais
Gérard,
j'avais commencé ça petit à petit, etc. Et mes Rimbaud sont en fait sortis, mais je crois que c'est fini.
Est-ce que vous avez une idée du nombre de dessins que vous avez fait?
On m'a souvent posé cette question.
Oui, j'imagine.
C'est pas possible. Je travaille depuis 17 ans.
Il faut pas répondre. Il faut imposer la qualité et non la quantité.
Oui,
il faut
pas répondre. Une telle quantité de qualité, c'est prodigieux.
Je peux pas, non, la quantité. Parce que dans cette quantité, il y a des grandes planches qui m'ont demandé 8 jours. Et puis j'ai des petits croquis qui m'ont demandé 2 heures. Alors,
Vous pouvez pas en faire tomber de votre sac en partant, là, que je puisse les ramasser, 2 ou 3 petits croquis.
Ben, les pas sur moi, non.
Ben, voilà, il est
non, non, les petits croquis, il y a longtemps qu'ils ont disparu en cadeau, etc.
Merci en tout cas d'être venu. Merci de faire ce que vous faites et de le faire aussi bellement et de venir nous en parler.
Est-ce que vous me permettez,
bien sûr.
Voilà, Serge, de mentionner que M. Pierre Joubert va démarrer une très belle exposition du 1er au 15 juin 96 au Centre culturel de Meudon, qui sera en même temps, je pense, une rétrospective de son œuvre. Donc M. Joubert convie les amateurs à venir admirer justement nombreux dessins qu'il a réalisés.
L'affiche est très belle aussi.
L'affiche est très belle. C'est une des planches du livre de la jungle qui a été réalisée aux éditions Fleurus. Et également notre ami Jacques Pecknard qui fait une exposition notamment sur le thème de Clovis au Sofitel de Versailles, 2 bis avenue de Paris d'ailleurs. Le vernissage, je crois, c'est le 4 juin. Alors ce sera également une rétrospective rétrospective de son œuvre. Monsieur Jacques Pecknard est passé à nombreuses reprises à Radio Courtoisie.
Alors là, puisque vous parliez de télescopage historique, Pierre Joubert, il y en a un superbe sur cette affiche. Il y a un magnifique portrait de Clovis, dans un style d'ailleurs de boyard, très curieux, et qui s'appelle Gros plan de Clovis, le roi soleil. Alors il faudra quand même que Pecknard vienne me voir, je lui donnerai, je ne suis pas très brillant, mais enfin une ou deux précisions sur l'histoire de France qui pourraient l'intéresser. Je garde les affiches, ah, bien sûr, ça, c'est le salaire de... Merci. Alors, il nous reste peu de minutes, ma chère Marie-Josée, mais enfin, vous avez l'habitude.
Absolument. Je crois que d'ailleurs, pour une fois, je vais me comparer, si vous voulez bien, à la télévision. Je joue toujours les 5 dernières minutes.
Vous connaissez Pierre Joubert, vous connaissez ses dessins.
Moi, parfaitement bien, bien sûr. Voilà. Bien sûr.
Qu'est-ce que vous en pensez? Dites que c'est mal et on est fâché à mort.
Ah non, vous me reverrez ici, il n'y a absolument aucune raison que je dise que c'est mal. Moi, c'est pareil, ça m'évoque autant de fraîcheur, de merveilleux, et je trouve formidable qu'il y ait encore des gens comme, bien sûr, Monsieur Le Tailleur.
Je vais faire une liaison avec la question que je voulais évoquer ce soir. Elle va certainement déplaire à Pierre Joubert, je lui en demande pardon à l'avance, mais voilà. Moi, j'ai toujours pensé que le dessin de Pierre Joubert était vraiment de droite. Lui, il s'en fout, il ne sait même pas ce que ça veut dire, il est étranger à cet univers-là, mais... Est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'il y a un art de droite et un art de gauche?
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'art à gauche. Alors, du moment qu'il y a de l'art, c'est donc de droite. Non. Mais je crois que je vais être encore taxé de parler un peu trop à l'emporte-pièce. Donc, je voulais d'abord dire...
Dans cette émission, c'est très malvenu.
Très, très malvenu. Je voulais dire d'abord quelque chose par rapport à Marc Dem, je peux revenir en arrière. J'ai une théorie, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je crois qu'elle est en train de se mettre en application tous les jours. C'est qu'on a essayé la tour... Ils ont essayé la tour de Babel en élévation. Moi, ça me pose un problème en tant que sculpteur pour le représenter. Et ils ont décidé, ils sont très intelligents ces gens malfaisants, ils ont trouvé que ça se cassait la figure quand c'était en hauteur. Et ils ont depuis pas mal de temps, depuis pas très 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 longtemps, mais ils deviennent très efficaces depuis le début du siècle, ils ont décidé de nous faire une tour de Babel horizontale. Ça s'abouse, comme on dit dans mon coin. Et cette tour de Babel horizontale, je suis entièrement d'accord avec vous, vous allez voir que ça a beaucoup de rapport avec mon métier. Ils l'ont exercé, ils l'ont essayé en Russie, c'est exact. Et ensuite, fort de l'expérience du régime soviétique qu'ils ont imposé brutalement, ils ont décidé de la propager mondialement et de faire de nous vider le coquillage européen. Et je stoppe parce qu'il va y avoir un petit stop.
Voilà, on va faire un stop et puis je vous redonne la parole tout de suite.